France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Il n'y a aucune limite au soutien de la France à l'Ukraine. Emmanuel Macron persiste sur sa position, l'ambiguïté stratégique qu'il défend. Irresponsable, va-t'en guerre, s'alarment les oppositions reçues aujourd'hui à l'Elysée. Moscou y voit une implication plus forte de la France dans la guerre. Nous serons aussi en Russie. L'actualité, c'est encore le retraitement des déchets nucléaires. Deux nouvelles usines sont envisagées à La Hague. Nous sommes au sein du pôle Cold Case qui fait le bilan de ces deux premières années. Un quatrième juge d'instruction promis dans le Pays Basque où les agriculteurs manifestent encore aujourd'hui. Et puis si vous aimez les jeux vidéo et Assassin's Creed, on vous conseille, et c'est très sérieux, une exposition à l'Institut du Monde Arabe à la fin de ce journal. Juste après, le téléphone sonne. Proviseur, enseignant, un métier à risque. Vos témoignages 01 45 24 7000.
France Inter.
Emmanuel Macron accentue donc encore le soutien français à l'Ukraine. Jusqu'à crisper les chefs de parti reçus ce matin à l'Elysée. Ils en sont sortis, bonsoir Simon Le Baron,
bonsoir.
Avec l'image d'un président va-t-en-guerre.
Oui, parce que tous ont retenu deux mots, aucune limite. Face à un ennemi qui ne se met aucune limite, nous ne pouvons pas nous permettre d'en formuler. Voilà ce que dit le président à la sortie, effectivement. Unanimité pour dénoncer des propos dangereux, que ce soit à droite et à l'extrême droite, Éric Ciotti et Jordan Bardella.
J'ai dit que cette position me paraissait inappropriée, voire irresponsable.
Ah, je pense qu'on peut envisager beaucoup de solutions, mais en tout cas pas celle de plonger dans la guerre mondiale.
Ou à gauche et chez les écologistes, Manuel Bompard, Marine Tondelier, Olivier Faure et Fabien Roussel.
Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore.
À ce petit jeu de l'escalade entre des pays qui ont l'arme nucléaire, ça peut aller très loin.
Il y avait un caractère très contre-productif à ces déclarations.
Et je trouve ça extrêmement grave et extrêmement dangereux.
L'Élysée a vu ses critiques et la polémique monter tout l'après-midi au point que les conseillers du président rappellent ce soir les journalistes pour assurer qu'il n'y a aucune escalade, que la position du chef de l'État est celle d'une réponse proportionnée au regard d'un durcissement russe. Et pour dénoncer, au passage, une incohérence des oppositions, si elles affirment que le soutien à l'Ukraine doit être indéfectible, alors c'est bien qu'il faut tout faire et ne rien exclure pour que la Russie ne gagne pas. Voilà bien ce qu'espère Emmanuel Macron, mettre ses adversaires en difficulté en les forçant à se positionner par rapport à lui, et c'est dans cet esprit que le chef de l'État et son gouvernement aborderont le débat et le vote qui auront lieu mardi à l'Assemblée et mercredi au Sénat.
Le président français seul contre tous, déjà quand il avait évoqué la possibilité d'envoyer un jour des troupes au sol en Ukraine, les alliés européens avaient immédiatement pris leur distance, une division européenne et une position française évidemment suivie à Moscou où vous vous trouvez. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant en Russie. Et le Kremlin estime ce soir qu'Emmanuel Macron augmente l'implication de la France dans le conflit en Ukraine.
Oui, les mots d'Emmanuel Macron ont été suivis, évidemment, et exploités par le Kremlin, qui ne perd pas une occasion de durcir le ton à l'égard de Paris en ce moment. Dimitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, n'a pas tardé à réagir, estimant donc que la France s'implique de plus en plus dans le conflit, sous-entendu se rapproche de plus en plus du statut de co-belligérant aux yeux de Moscou. Mais, comme souvent, Moscou aime aussi et surtout peut-être souligner les faiblesses de l'Occident. Dimitri Peskov a donc tout de suite souligné que tout le monde n'est néanmoins pas sur cette ligne en France et en Europe, ainsi insistant même d'ailleurs sur le fait que le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lui-même avait fermé la porte à l'envoi de troupes françaises dans l'immédiat. Le Kremlin cherche donc à montrer que le président français est isolé et sa position ne va pas dans l'intérêt du peuple français, appuie Dimitri Peskov, dont les propos restent malgré tout relativement mesurés, contrairement à ceux de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe devenu faucon du régime, qui écrit cet après-midi que si la France n'a pas de limite en Ukraine, alors la Russie n'a plus de ligne rouge vis-à-vis de la France.
Sylvain Tronchet, notre correspondant en direct de Moscou, merci à vous. Et après de longues tractations, la Suède est officiellement devenue aujourd'hui le 32e pays membre de l'OTAN. Cérémonie à Washington, une victoire pour la liberté, dit le Premier ministre suédois, signe d'une débâcle stratégique de la Russie, insiste de son côté le chef de la diplomatie américaine. Les États-Unis qui se préparent à écouter Joe Biden ce soir, discours sur l'état de l'Union du président américain, le dernier de son mandat. Et outre les sujets sujet de politique intérieure, le soutien à l'Ukraine devrait être évoqué, comme l'action américaine au Proche-Orient. Joe Biden devrait notamment ordonner la construction d'un port à Gaza pour acheminer par la mer davantage d'aide humanitaire dans l'enclave.
Il est 19h presque 6, Hélène, en France, le pôle Cold Case, les affaires non élucidées se renforce.
Un quatrième juge d'instruction va rejoindre l'équipe montée il y a 2 ans à Nanterre. 2 ans et bien plus de dossiers qu'ils ne peuvent en traiter. Delphine Evenou a pu y pénétrer aujourd'hui.
Au deuxième étage du tribunal de Nanterre, 3 portes, celles des 3 juges d'instruction qui font vivre ce pôle et les espoirs de dizaines de familles, 30 de dossiers chacune. La juge Sabine Kerry, c'est la coordinatrice.
Par exemple, la semaine dernière, on était avec un parent de victime et il nous disait, ma fille a disparu, ça fait 29 ans que j'ai une boule à l'estomac et grâce à vous, la boule se desserre un peu. Ces victimes qui nous disent ô combien le fait juste d'être entendu, écouté, considéré, c'est pour elles une révolution.
Un minutieux travail de fourmi, des investigations longues. Il faut déjà 1 mois à temps plein pour prendre pleinement connaissance d'un dossier. On avance pas à pas depuis 2 ans, mais on avance, assure Benjamin de Paris, le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
385 dossiers ont été étudiés au peigne fin pour voir s'ils remplissaient les conditions d'abord légales pour venir au pôle. Donc sur ces 385 dossiers, nous avons 88 affaires à ce jour et il y a quand même 7 dossiers qui ont évolué alors que quand ils étaient encore en difficulté dans certaines juridictions, c'est des affaires qui étaient parfois oubliées mais surtout à l'arrêt.
De ces affaires, le pôle Cold Case ne veut pas en dire plus car l'instruction protégée du secret est encore en cours. On sait toutefois que 3/4 des victimes de ces dossiers sont des femmes et 1/4 des mineurs.
Au reportage signé Delphine Evenou, cette affaire avait fait grand bruit il y a 13 ans, celle des faux espions de Renault, inventée toute pièce mais qui a conduit au licenciement de 3 cadres. Le principal prévenu est aujourd'hui condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, sous bracelet électronique. Le parquet général ne retient finalement qu'une des 4 affaires de viol visant Tariq Ramadan, l'islamologue suisse, accusé par plusieurs femmes. Bonsoir Sarah Guiloudeau.
Bonsoir.
Un seul procès est donc requis.
Oui, en juin dernier, les juges d'instruction avaient renvoyé Tariq Ramadan devant une cour criminelle pour y être jugé de viol sur 4 plaignantes qui décrivaient des relations sexuelles particulièrement brutales. Tariq Ramadan a fait appel et alors que la cour d'appel doit rendre sa décision d'ici quelques semaines, le parquet général estime qu'il n'y a pas de charge suffisante pour les 3 premières plaignantes. Il fustige pour la première ses trop grandes ambivalences, ses mensonges, l'absence de constatation médicale ou de témoignage et souligne que plusieurs mois après les faits, elle envoyait encore des messages à Tariq Ramadan pour le relancer et poursuivre leur relation sexuelle. Quant à la deuxième plaignante, les messages échangés avec Tariq Ramadan semblent montrer qu'elle accepte très vite de rentrer dans son univers sexuel. Il l'interroge à de multiples reprises sur son degré d'acceptation, lui demande ce qu'elle a pu aimer ou ne pas aimer. Elle fait part de sa totale satisfaction, souligne le parquet général. Seule la 4e plaignante, elle a convaincu le parquet général qui estime que le viol est caractérisé, qu'elle n'était nullement décidée à avoir un rapport sexuel à ce stade de leur rencontre et encore moins un rapport sexuel violent de type dominant-soumise. Ce réquisitoire promet, s'il y a un procès Tariq Ramadan dans les prochaines années, de très intéressants débats sur la notion d'emprise.
Explication signée Sarah Guibaudot.
De nouvelles usines pourraient voir le jour à La Hague.
C'est l'autre versant de la relance nucléaire voulue par le gouvernement. La question du retraitement. La durée de vie de l'usine de recyclage Orano de La Hague va d'abord être étendue au-delà de 2040, tout comme celle de Marcoule dans le Gard. Et 2 nouvelles usines sont donc à l'étude. Annonce du ministre de l'économie sur place aujourd'hui, où les réactions sont mitigées. Jacqueline Fardel.
2 nouvelles usines envisagées en pleine polémique sur le projet d'EDF d'une piscine d'entreposage supplémentaire sur le site de La Hague. Nicolas Maes, le délégué général d'Orano, balaie les réticences.
Ce que nous ressentons, c'est qu'il y a un niveau d'adhésion et d'enthousiasme pour ces nouveaux programmes. Ce qu'on va poursuivre et continuer à faire, c'est de travailler dans cet esprit de dialogue, et comme nous l'avons fait, en fait depuis le démarrage de l'usine et comme nous le faisons au quotidien aujourd'hui.
Les 5700 salariés du site, eux, respirent comme Xavier et Sylvain.
On se pose un peu de questions sur l'avenir nucléaire jusqu'à 2040. Là, on a une vision pour peut-être 50 années derrière, donc très rassurant.
C'est une très grande nouvelle pour la filière recyclage, c'est parfait.
Prolonger l'activité avec à la clé des embauches, encore faut-il trouver la main d'œuvre. Question de ministre.
Vous avez du mal à recruter ou...
Alors aujourd'hui, depuis quelques mois, on n'a plus de soucis de recrutement sur cet établissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on publie une offre, on a maintenant beaucoup de personnes qui se présentent.
Qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est l'ambiance autour du nucléaire?
Il y a tout le renouveau, effectivement, que le gouvernement a impulsé.
Donc les gens ont retrouvé confiance à faire nucléaire.
Oui, je pense, ouais.
Confiance mitigée, évidemment, chez les antinucléaires qui craignent, eux, que la Hague devienne une immense poubelle. Il y aura concertation, promet Bruno Le Maire.
Nous lançons les études qui vont nous permettre de savoir quels sont les terrains nécessaires. C'est ce qui va nous permettre d'en discuter aussi avec la population.
Le ministre qui n'a annoncé ni calendrier ni budget précis.
Jacqueline Fardel, France Bleu Cotentin. Cette fois, les agriculteurs français et espagnols ont fait cause commune à Biriatou, au Pays Basque, sur la question des taxes. Appel à l'Union européenne. Quelques 300 tracteurs ont bloqué le péage. Thierry, éleveur de bovins à Bidache.
On a posé l'ultimatum. On tombe à l'Europe au 1er juin. Donc au 1er juin, l'idée, c'est qu'on bloque. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On va la bloquer les autoroutes des semaines, on se fatigue, on sort. Et finalement, on n'a que de la communication. Aujourd'hui, on veut du fond. On attend un plan pour les générations futures, d'avoir de la visibilité, c'est très compliqué aujourd'hui. Et on attend surtout, on demande une détaxation totale de l'énergie. Pour les producteurs, c'est-à-dire l'énergie qui nous sert à produire. Le GNR, le gaz et l'électricité. Aujourd'hui, avec un gasoil qui atteint des sommets, la production n'est presque plus envisageable. Ben, moi, je consomme environ dans les 40 000 euros de GNR, mais combien de pourcents? C'est une des plus grosses charges. Et on croit en l'Europe. On est quand même un discours pro-européen. Donc on attend vraiment un engagement de l'Europe. Elle nous le doit.
Un témoignage recueilli par Simon Cardona de France Bleu Pays Basque. Et à Prague, ce sont des centaines de tracteurs qui ont perturbé la circulation dans le centre historique de la ville. Aujourd'hui, calmer la colère paysanne, c'est l'un des enjeux de la campagne des européennes et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, vient de franchir une étape clé vers un second mandat en recevant aujourd'hui l'aval de sa famille politique conservatrice, le PPE, Parti Populaire Européen, première force politique du Parlement et favori des prochaines élections.
Merci, mes amis. Merci, cher parti. C'est formidable d'être là et d'avoir votre confiance. Il nous reste 90 jours avant les élections. Il est temps d'aller sur le terrain et de conquérir les cœurs et les esprits.
Ursula von der Leyen qui franchit donc une étape essentielle aujourd'hui. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Bruxelles, même si ça ne lui garantit pas de rempiler.
Non, l'étape essentielle, c'est parce que la règle, en fait, à l'issue des élections européennes, veut que les 27 dirigeants choisissent le ou la présidente de la Commission au sein de la famille politique arrivée en tête du scrutin. Or, la droite, le PPE, est donnée gagnant par les sondages. Elle sera donc la candidate naturelle, mais rien ne leur interdira de choisir une autre personnalité issue de la droite. En 2019, les 27, rappelez-vous, n'avaient pas voulu de Manfred Weber, pourtant investi par le parti. Ils avaient sorti du chapeau l'ancienne ministre de la Défense allemande. Alors, si toutefois elle était désignée, elle s'est tout de même assurée de certains soutiens. Elle devra encore franchir une étape, celle du Parlement, avec un vote à la majorité absolue. Et il y a 5 ans, elle n'avait été élue qu'avec 9 voix d'avance. Le chemin est donc tortueux. Son récent virage à droite sur les questions climatiques ou sur les questions migratoires lui valent bien des critiques en ce moment à gauche. Son bilan est certes jugé plutôt positif. Elle a traversé les crises, Covid, guerre en Ukraine, avec poigne et efficacité. Mais son mode de gouvernance ou encore son indépendance en matière de politique étrangère en font aussi une présidente controversée à Bruxelles et dans certaines capitales. La voie est donc tracée, mais d'ici juin, et en fonction bien sûr du résultat du scrutin, cela peut encore changer.
Merci beaucoup Angélique Boin, direct de Bruxelles. L'heure n'est pas encore à la baisse des taux au niveau européen. La Banque Centrale Européenne confirme que pour l'instant elle ne touche à rien. Sa priorité reste la lutte contre l'inflation, d'autant que le risque de récession s'éloigne. Le marché immobilier attendra. L'économie reste fragile, mais le CAC 40 a une santé de fer. La Bourse de Paris franchit aujourd'hui le seuil symbolique des 8000 points. C'est une première.
C'est un assouplissement qui a tout de l'enterrement.
La ministre de l'Éducation nationale annonce aujourd'hui qu'elle laissera les chefs d'établissement libres de la mise en place des groupes de niveau en maths et en français au collège toute l'année ou seulement à certains moments. Nicole Belloubet se défend de toute inflexion, mais la réforme voulue par Gabriel Attal lors de son court passage à l'éducation nationale était plus large pour tous et partout. La ministre de l'Éducation avait par ailleurs sous ses fenêtres aujourd'hui une bonne partie des professeurs de Seine-Saint-Denis avec des parents, avec des élèves, 4500 personnes selon l'intérêt intersyndicale mobilisée contre les classes surchargées et contre l'état déplorable de leurs locaux. Bonsoir Océane Zitouni.
Bonsoir.
Vous êtes allée à leur rencontre.
Dans le cortège, ils avaient tous au moins un exemple édifiant, à l'image de Nassim, professeur de physique-chimie dans le collège Gustave Courbet à Romainville.
On a des fuites d'eau, on a des trous dans le sol où on peut voir l'étage en dessous. On a des carreaux cassés dans l'étape de science. Nos élèves se blessent, voilà. Et malheureusement, il y a d'autres établissements, c'est pareil, quoi.
Ces autres établissements, Flore, enseignante à Épinay, les recensent sur un groupe WhatsApp avec des collègues du 93. Des vidéos circulent comme celle-ci.
On y voit le plafond d'une cantine qui s'effondre et c'est assez récurrent. Moi, j'ai aussi des cafards dans ma salle. Pour pas faire paniquer les élèves, on leur dit que c'est des punaises de jardin parce que c'est extrêmement violent pour les élèves de se rendre compte qu'ils doivent être en classe dans ces conditions-là.
Ce quotidien force les enseignants à assumer des tâches qui ne relèvent pas du tout de leurs responsabilités. C'est ce que résume la pancarte que brandit Nathan, un professeur d'histoire-géographie à Villepinte.
Je suis prof, infirmière, assistante sociale, secrétaire de direction, agent technique, mais à la base, je voulais juste être prof.
L'intersyndicale enseignante demande un plan d'urgence avec la création de 5000 postes de professeurs, un seuil maximum de 20 élèves par classe et la rénovation des établissements scolaires.
Merci Océane Zitouni pour ce reportage. Le plastique est partout, y compris dans notre corps. Des micro-particules très présentes dans notre organisme et qui ne sont pas sans effet pour notre santé. C'est ce que pointe cette étude de chercheurs italiens. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Notamment la question du lien avec les maladies cardiovasculaires.
Oui, l'équipe de chercheurs de Naples a en fait étudié des échantillons prélevés sur des patients opérés de l'artère carotide. Ils ont alors analysé cette plaque carotidienne et détecté la présence de microplastiques, moins de 5 mm, et de nanoplastiques en dessous d'un millième de millimètre. Résultat, 58% de ces 304 patients présentent du polyéthylène, c'est le plastique des sacs, des emballages alimentaires entre autres. Les chercheurs ont ensuite suivi ces patients pendant presque 3 ans. Résultat, ceux qui sont contaminés par du plastique ont 5 fois plus de risque de faire un accident cardiaque. D'autres études avaient déjà montré que les microplastiques sont présents dans le corps humain, dans les poumons et dans le sang notamment. Les chercheurs ont aussi testé son effet sur des cellules humaines, mais en laboratoire, il s'avère nocif. En population réelle, les études sont rares. Cette recherche sur le cœur renforce donc l'hypothèse d'un risque, d'autant que le plastique se retrouve ici dans les dépôts graisseux qui obstruent les artères. Et pour ces chercheurs, le seul moyen de s'en protéger pour l'instant, c'est de réduire la production du plastique à l'échelle mondiale.
Rémi Brancato et encore deux infos santé sur l'endométriose. La ministre Catherine Vautrin se donne pour objectif de rembourser le test salivaire qui permet de détecter la maladie l'année prochaine, 2025. Et puis l'augmentation stupéfiante et inquiétante des infections sexuellement transmissibles en Europe. Ce sont les qualificatifs choisis aujourd'hui par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies. Les cas de syphilis, notamment, sont en hausse de 34% sur un an. Je vous emmène à présent visiter une exposition originale à l'Institut du Monde Arabe à Paris et visiter une ville, Bagdad, au 8e siècle. Toile de fond du dernier jeu Assassin's Creed sorti à l'automne dernier. Ce sont d'ailleurs ses créateurs, développeurs d'Ubisoft, qui proposent cette reconstitution. Imaginant ce à quoi la ville pouvait ressembler à l'époque, Jeanne Mézias s'est laissé prendre.
Dès l'entrée, ce sont des voix qui nous emmènent au 8e siècle, avec un mélange de langues qui n'ont pas été choisies au hasard. Thierry Noël est directeur de recherche historique à Ubisoft.
Ces voix illustrent toute la diversité des langues qu'on pouvait entendre à Bagdad à l'époque, araméen, syriaque, copte, bien sûr arabe, et que nous avons voulu représenter dans le jeu. C'est une question d'immersion, une question d'authenticité.
La difficulté était de créer des images de Bagdad réalistes, parce que c'est une ville que l'on ne connaît pas, rappelle Éric Delpont, conservateur à l'Institut du Monde Arabe.
On ne la connaît qu'à travers des textes, et donc des descriptions littéraires qui sont souvent très laudatives. On sait aussi qu'il faut un peu tempérer cette description d'une ville magnifique qu'il était, surtout la ville ronde, le palais, ça c'est sûr.
Les équipes d'Ubisoft ont donc demandé à l'Institut du Monde Arabe si elles pouvaient s'inspirer d'objets de la collection du musée, explique Romain Facialé, qui a travaillé sur l'exposition.
Trois objets qui sont présents en photo dans le jeu sont exposés effectivement dans les vitrines. Les joueurs avec les yeux les plus aiguisés les reconnaîtront dans l'expo.
De gourdes en terre cuite, par exemple, et c'est justement cette alliance entre réalité historique et imaginaire du jeu qui attire les visiteurs comme Antoine.
L'histoire de Bagdad, c'est quelque chose que je connais pas. Le découvrir avec le jeu vidéo, c'est quelque chose de ludique.
vite, c'est intéressant.
Antoine a même réussi à emmener sa mère, elle aussi conquise par la découverte de Bagdad.
Voilà une exposition à voir jusqu'en novembre prochain à l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Et merci beaucoup Hélène Fille. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler d'éducation, d'enseignants surtout, et de proviseurs, métier à risque ou pas, avec un point d'interrogation quand même, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Et Elodie Calac, un temps agité demain au sud.
Oui, on a une perturbation qui va remonter par les Pyrénées dès cette nuit et on va la retrouver du sud-ouest au Languedoc-Roussillon demain matin. Elle progressera vers la Bretagne, le centre-val de Loire, la Bourgogne et les Alpes dans l'après-midi en effaçant les éclaircies du matin. Il y aura du vent sur toute la moitié sud jusqu'à 80 à 100 km à l'heure. Les pluies seront soutenues en particulier sur les Cévennes, mais aussi des pluies copieuses sur le Languedoc jusqu'à la Provence, aux Alpes du Sud et à la Côte d'Azur. Il y aura de la neige dès 1300 mètres. Sur le sud-ouest, un ciel plus changeant va prendre le relais des pluies l'après-midi, avec quand même des averses, parfois un orage, mais des éclaircies bien appréciables. Et puis de la Normandie vers la région parisienne, le nord de la Seine, le nord-est, là ce sera ensoleillé avec quand même quelques grisailles le matin.
Quelques températures pour la route.
Encore quelques gelées le matin vers le nord-est, 6 à 11 degrés en revanche de l'océan à la Méditerranée. Et puis l'après-midi, 11 à 17 degrés avec 12 à Brest, à Nancy, 14 à Paris, Lyon, Montauban et Marseille et 17 à Perpignan.
Merci beaucoup Elodie Calac, merci beaucoup. Avant de poursuivre, tiens, un message de service, écoutez bien, très important pour vous qui êtes auditeurs d'Inter et aussi fous de lecture. La date limite pour entrer dans le jury du livre Inter, c'est lundi prochain, le 11 mars, il vous reste donc demain. Et ce week-end, pour peaufiner votre lettre qui est la seule porte d'entrée, vous connaissez le chemin pour nous écrire, c'est fléché sur franceinter.fr. Si vous préférez prendre la plume, Eva Bétan adore vous lire également, livre Inter, France Inter, 116, avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris CEDEX 16, lundi 11 mars inclus. Pour la date limite, vous savez que cette année c'est le 50e livre Inter, donc ça se fête dignement. La présidente du jury, c'est aussi une très grande lectrice en plus d'une très grande actrice, et c'est Isabelle Huppert. Allez, à tout de suite.